présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Ne bouge pas. Il se dit, voilà, la chose est faite. Laisse le corps à terre et attends. Demi-heure plus tard. La porte de l'appartement s'ouvre. Chérie, il accourt à elle. Elle lui dit, tu es là, mon chéri? Il lui dit, oui. et l'embrasse. Elle lui demande, qu'as-tu fait? Il lui dit, j'ai beaucoup travaillé, tu sais. Elle lui fait, ici? Oui, une cliente. Elle lui dit, ah, une cliente? Mais ne te fais pas de soucis. Tu l'as reçue ici? Oui, mais ne te fais pas de soucis. Elle lui fait, j'ai faim. Elle lui dit, allons boire un verre et nous irons manger au restaurant. Elle lui fait, d'accord. Et il l'emmène au salon. Ils s'assoivent devant une table basse. Il a des bouteilles et des verres. Il lui demande, un bonbon? Oui. Il lui dit, moi aussi. Et il fait le service. Tiens, merci. Tiens. Ils boivent en silence. Elle lui dit, tu seras heureux, nous serons très heureux. Après avoir bu, il se lève et sort. Ils vont dans un restaurant, un télo d'artistes, écrivains, peintres et tout. Des jeunes et moins jeunes qui vivent au crochet de leur famille et de la société en faisant leur art, c'est-à-dire des choses qui ne se vendent pas et n'intéressent personne, à part les alternatifs allemands et les intellos français. Ils squattent des taudis qui deviennent leur atelier, leur chez-eux. Ils passent plus de temps à discuter, à critiquer le monde occidental en buvant, en mangeant des spaghettis ou des trucs chinois. Ils s'habillent d'une façon dégueulasse. François et Margaret se sont assis à une table. Il y a des artistes, des peintres, philosophes, écrivains, photographes. La salle est sombre, salle Jean, 1960. Une grande brinque habillée de noir en pull et pantalon, très maigre, cheveux tombant sombres. Elle est en face de Margaret et lui dit, en ce moment, je travaille sur le corps nu. Le corps, corps, le corps sans larmes, rien que la chair, les os et les entrailles. Tu vois, un corps qui ne pense pas, qui n'a aucune idée. J'ai trouvé ce corps. C'est un cadavre que je photographie à la morgue. C'est vachement bien, un corps comme ça, sans âme, rien. C'est la tendance en ce moment. On en a assez de penser à des gens qui ont de l'intelligence et qui sont quelqu'un. Vous voyez, des corps bruts. Margaret lui dit, vous avez raison, un corps brut, sans rien, c'est plus beau. François lui demande, et qu'est-ce que ça te ferait si t'en voyais un? Elle lui dit, je serais ébloui par lui. Il lui dit, tu n'aurais pas de la peine? Elle dit, non, la peine c'est une idée de bourgeois. Moi je serais heureuse de voir ce corps libéré de la torture de la pensée. La fille lui dit, t'as raison ma vieille. On leur sert des spaghettis. Elle embrasse François et lui dit, tu vois, J'ai raison de t'amener ici. Tu t'enrichis l'esprit. François lui dit, oui, mais un corps d'une personne que tu connais, que tu aimes. Elle lui dit, c'est pareil. Je suis heureuse pour elle. La fille lui dit, on parle de combat interculturel qu'il faut toujours s'humilier au maître pour arriver à quelque chose en art comme pour tout. C'est une idée d'un camarade anarchiste lyonnais, 1980-2005. C'est très fort, sa formule. Lui a tué pour mettre des vrais cadavres sur ses toiles, cloués sur ses toiles. Des corps de capitalistes. Il a appelé son tableau la lutte des classes. C'est chouette ça, et fort. François le demande, et toi, est-ce que tu tuerais? Elle lui fait, pourquoi pas, pour libérer la personne de toute pensée, pour qu'elle soit heureuse. François jubile, il se dit que c'est gagné. La fille lui dit, tu es chouette toi, tu es une vraie militante. François se dit militante qui vit dans le luxe. La fille dit, on prépare un film en 8 mm noir et blanc sur ce sujet. On va le tourner à la morgue. Ça te va? Margaret lui dit, oui, pourquoi pas. Et toi, François? Il lui dit, si j'y vais. Mais non, les cadavres, moi, je préfère, c'est m'en débarrasser. Tous rient. Après le repas, ils sont partis, la main dans la main. Elle a voulu aller dans un cinéma du quartier, un vieux cinéma qui passe des films intello en langue originale non sous-titrée, des films français, allemands et quelques américains d'ici. Ils sont allés voir un film sur un militant 68ard qui s'est suicidé en se brûlant. Puis, il l'a raccompagnée. Elle lui demande, tu rentres? Il lui dit, je suis crevé. Nous n'avons pas dû discuter de mon passé trop de temps. Et maintenant, il est un peu tard. Nous verrons demain, demain soir. Et il demande, qu'est-ce qu'il y a demain soir? Il lui dit, oh, juste une chose à faire, rien. Allez, je te laisse. Elle lui dit, c'est idiot, tu pourrais bien rester chez moi. Il lui dit, non, tant que nous ne sommes pas mariés. Elle lui fait, tu es ridicule. L'embrasse sur le nez et lui dit, bonne nuit. Elle est fatiguée et heureuse. Vite, elle va dans la salle de bain, se déshabille pour prendre sa douche. Puis va dans sa chambre et se couche. Elle est heureuse. Elle a amoureux. Vie entourée de gens sympas. La discussion de ce soir était drôlement profonde. Je n'aurais jamais cru pouvoir parler de ça, la mort et tout. Elle se demande ce que penserait sa mère d'elle. Elle se dit qu'elle sera sûrement offusquée. Peut-être que sa mère ne sera plus en colère contre moi lorsque je serai mariée. Mariée? Moi, mariée? Je n'y crois pas. Et avec François? Oh, François qui n'a rien, il vit de rien. Je suis folle? Non. Amoureuse. Et elle s'endort heureuse. Elle n'a pas rêvé. Se réveille. Il fait grand jour. Se sent très bien, heureuse, se lève pour aller à la salle de bain. Il revient dans sa chambre. S'habille. Elle se dit, en voyant celui des faits, qu'elle devrait, c'est se trouver une bonne. Il est impossible, c'est d'avoir des choses, tant de choses à penser, comme toutes ces idées d'intellectuels, alternatifs ou nihilistes, et avoir le temps de faire son ménage. Non, c'est impossible. Il faut choisir où l'on est un intello de gauche ou l'on est une sale fasciste de femme d'intérieur. Regarde, ringarde. Elle se demande comment elle est devenue une femme de gauche alternative. Elle est entrée dans ce restaurant et la chose s'est faite. Le décor, la fumée, les plats, les gens. Et la chose a été faite. Mais ça ne l'empêche pas, c'est d'aller deux fois par semaine dans des soirées très droites. Une fois qu'elle s'est habillée, elle va dans sa chambre. Elle sort de sa chambre sans faire son lit. Durant 40 ans, elle était chez sa mère. Elle ne l'a pas fait une seule fois. C'est pas maintenant qu'elle commencerait. Non, elle va à la cuisine préparer son petit déjeuner. La cuisine. C'est pas drôle de préparer son petit déjeuner. Non, c'est pas drôle du tout. Là aussi, c'est pas drôle de faire ça. Il faut tout faire Heureusement qu'il y a des tas de choses toutes préparées, comme ce délicieux biscuit BM, ces bâtons de chocolat, ces laits que l'on peut boire sans les faire cuire, etc. Elle se fait un petit déjeuner prêt et froid. Elle se dit qu'il lui faudrait au moins deux domestiques, dont une cuisinière française et une bonne anglaise. Elle soupire et se dit qu'elle a beaucoup de choses à penser. Pauvre petite fille riche. Après son petit déjeuner, elle est allée au salon. Elle veut prendre un CD qui est dans le placard mural du salon. Elle n'arrive pas à ouvrir le placard. Il n'y a pas de clé dessus. Tiens, où est la clé? Heureusement qu'il est presque vide. C'est peut-être François qui l'a prise. Elle décide de sortir. Elle va à pied jusqu'à l'hôtel de François. Ils déjeuneront ensemble dans un restaurant près de l'hôtel. Il fait beau, le ciel est bleu. Arrivée à l'hôtel, elle y rentre. Va à l'accueil. Est-ce que vous pouvez me dire où est François du Sandaire? Le concierge qui la connaît lui dit: oui, mademoiselle, il est au salon à lire le journal. Merci. Le rejoindre. Il est assis dans un fauteuil à lire le journal. Va à lui. Bonjour chérie. Il baisse le journal et lui dit bonjour. Elle se baisse et lui donne un baiser sur le front. Il demande: bien dormi? Elle lui fait: oui, et toi? Moi aussi. Il lui fait: pas rêvé à des cadavres ou autres? Elle lui dit: non, c'était très intéressant cette discussion, tu ne trouves pas? Il lui dit: oui, très. Donc, pas de fantôme. Et si tu en voyais un vrai cadavre, est-ce que tu aurais peur? Mais non, pourquoi? Il est mort. Il ne peut rien nous faire. Il lui dit: tu as raison. Elle lui dit: j'ai pensé à une chose. Que par exemple, nous pourrions avoir, c'est au moins deux domestiques. Il lui dit: c'est peut-être un peu trop pour commencer. Il lui dit: non, c'est juste ce qu'il me faut. Autrement, je n'aurai pas le temps de faire quoi que ce soit. Il lui dit: mais qu'est-ce que tu auras à faire? Il lui dit: je ne sais pas, m'instruire. Et puis, je pourrais t'aider dans ton affaire, non? Il lui dit: bien sûr. Ils sont allés au restaurant, un peu plus chic et plus cher. avec des gens de l'autre bord. Ils ont mangé dans un décor rouge et or, de la langouste et des tas de choses qui font pas beaucoup de bien à l'estomac. Elle n'a fait que dire qu'elle est heureuse. Dis, profites-en bien, tu me demandes pourquoi? Parce que le bonheur ne dure pas toujours, mon chéri. Et lui dit, avec toi si, tu verras, je vais te choyer mon bébé. Il lui dit, j'y compte bien. Et ils sourient tous les deux. Margaret, dans l'après-midi, rencontre une de ses amies. C'est une jeune femme dans les 30 ans. Elle est grande, mince, blonde, habillée d'une robe à fleurs blanches avec des fleurs bleues. Elle la rencontre dans la rue.
Margaret, quelle surprise!
Bonjour, Dani. Comment vas-tu?
Dani lui dit.
Je vais très bien. Mon mari est parti en voyage d'affaires à Paris. Je ne peux plus faire des affaires sans passer par Paris, à cause de Franc Blanc, qui a le monopole de tout. Il est pire qu'Universal. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toujours chez ta mère?
Margaret dit, non, je l'ai quittée.
Oh?
Oui, je vis seule, ou presque.
Elle lui dit,
il faut que tu me racontes tout ça. Tiens, allons de ce salon de thé, là, au coin de la rue.
Et elles y vont. Margaret est toute excitée, heureuse de dire qu'elle vit seule. Parce que depuis longtemps, toutes ses amies sont déjà bien mariées et ont même des enfants. Elle, elle est devenue la vieille fille du groupe qui vit chez maman. Elle se sentait défavorisée par rapport aux autres. Et même, elle avait un peu honte. Elle se disait que les autres devaient penser que si elle n'était pas mariée, c'est parce qu'elle ne trouvait pas quelqu'un, parce qu'elle était moins bien qu'elle, etc. Maintenant, elle va pouvoir leur montrer qu'elle est comme les autres et que même, elle a bien fait d'attendre.
Est-ce qu'elle a un mari?
Ou aura un mari mieux que les autres, que le leur? Que les leurs sont déjà en train de prendre de la brioche, de se dégarnir. Le sien est tout jeune et beau. Elle aura le plus jeune mari parmi ses copines. Et pourtant, elle est la plus vieille. Dani se dit qu'elle a dû se disputer avec sa mère, mais qu'elle retournera bien vite chez elle.
La pauvre, vivre seule, et pour la première fois à 40 ans, ne doit pas être drôle. Et si elle est partie de chez elle sans être mariée, à son âge, cela veut dire qu'elle ne se mariera jamais. La pauvre.
Elles arrivent devant un salon de thé qui est au pied d'un gratte-ciel. Le salon de thé est assez grand. Il y a deux niveaux. Décoré 1950.
tapis rouge et or, table nappe blanche, il y a une petite musique d'ambiance, du monde, surtout des femmes, d'un certain âge et milieu. Les serveurs en habit noir vont et viennent dans la salle. Oui, je sais, je décris toujours à peu près la même chose. Mais les histoires qui se passent à l'époque de l'élu, comme la spirale de verre, la plante du diable et celle-ci, se passent à la même époque. Et le décor, plutôt le décor, forcément, se ressemble. C'est comme pour un film, l'éclairage d'ensemble reste le même. Et le décor, comme les décors sont faits par la même personne, c'est pour faire une unité de ton, d'ambiance. Le décor, comme l'histoire, joue sur l'ambiance. Ici, c'est la même chose. Que ce soit pour le luxe, que ce soit pour la misère, dans ces histoires, les décors se regroupent comme le comportement des gens.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.